Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau barbecue foot en ce beau lundi 18 mars, lendemain d'un week-end où s'est vu dérouler la J26 de Ligue 1, sur laquelle bien sûr on reviendra, parce que le barbecue foot de Radio Merguez, c'est principalement notre bonne vieille Ligue 1. Avec un petit peu d'étrangers, hein, parce qu'on regarde quand même ce qui se fait ailleurs. Et on débriefera également, alors bien sûr, les matchs retour de nos deux Européens de la semaine dernière, Marseille et Lille, même si on ira assez rapidement, même si Marseille s'est fait un peu peur, alors que Lille a bien géré. On parlera bien sûr des tirages au sort. Est-ce une voie royale pour Paris? En tout cas, cette phrase, c'est ce que je disais à mes acolytes que je vais présenter juste après. Le vendredi matin, une voie royale vers la finale, cette phrase n'avait absolument aucun sens, on est d'accord entre nous, pour Paris. Et là, tel Moïse, la mer rouge s'est ouverte devant nous, et allons-nous en profiter. On détaillera ça tous ensemble. Mais en premier lieu, mes acolytes, Ai-je encore besoin de les présenter? Le premier, mais non des moindres, c'est Carlos. Misère. Ça va, mon Carlos?
Ben écoute, ça va. Bonjour, bonsoir, bon bouchon à tous nos poditeurs et poditeuristes. Hein. Moi, ça va bien. Mes équipes ont plutôt gagné ce week-end, donc plutôt content. Un bon week-end. On a même vu une équipe de France de rugby gagner. Pour te dire que le week-end a été quand même assez exceptionnel.
Contre les Anglais, c'est toujours bon. Même si et une deuxième
c'est toujours surpris.
Et à la dernière minute, et en faisant une petite pénalité à l'anglaise à la fin, ça c'est surtout ça qui est pas mal.
Et ça, c'est juste beau. Le deuxième acolyte du soir, bah, vous avez entendu sa douce voix.
Ben oui, il
ne peut s'empêcher de parler. Alors
mais non, mais quand Carlos
Misère parle... Il ne peut s'empêcher de me couper, monsieur.
Mais voilà, c'est parce qu'il indifiant. Il parle. Oh là là, quel moulin à parole.
Ça va, mon Clément?
Très bien. Moi, par contre, mi-fig, hein, ce week-end. Bon, évidemment, la victoire rennaise contre les Marseillais m'enchante au plus grand... On en reparlera hein, avec cet immense joueur qui est Benjamin Bourigeaud. Voilà, ils sont en train de créer le moule là pour sa statue devant le stade. Le moins bon, c'est Liverpool qui perd contre ces fumiers de Mancunien. Voilà, je l'ai dit. Mais on en reparlera peut-être aussi rapidement parce qu'il n'y a pas eu vraiment de Première Ligue ce week-end puisque c'était la FA Cup.
Je crois qu'il y a eu quoi, au moins 4 ou 5 matchs.
Mais tout n'était pas annulé. Mais bon, les gros, sauf. Arsenal ne jouait pas la Coupe. Donc Arsenal avait été éliminé par Liverpool, mais voilà, Liverpool a été éliminé par Manchester. Voilà, donc un week-end un peu. Mi-fig.
De toute façon, à un moment, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Père Dieu, il doit être aux anges. Ces deux équipes mènent.
Oui, non. Et alors, sérieusement, je me suis dit, bon, Liverpool, c'est bon. Et j'ai eu très peur pour Rennes, notamment sur le coup franc, on en parlera peut-être tout à l'heure de Aubameyang qui finit sur le poteau. Enfin bon, ouais. C'était chaud pour Rennes quand même, parce que ça reste Marseille en face, hein, c'est pas non plus des peintres, même s'ils sont très fatigués, soi-disant. Bon, on ne sait pas de quoi, mais bon, ça s'appelle le football, les gars. C'était en même temps et c'était un peu compliqué. Ouais.
Allez, on est parti. On commence.
Tu as oublié de dire que parce que toi, tu ne bois pas. Enfin, je veux dire, tu ne bois pas. Tu bois de l'eau parce que tu en as besoin. Ton corps en a besoin, mais tu ne bois pas d'alcool. C'était la Saint-Patrick aussi hier.
Genre de truc. Oui, ça me passe au-dessus de la tête.
Oui, bah. Je ne sais même pas. Salon tous les Irlandais qui ont fêté la Saint-Patrick. Voilà.
Ouais.
Et qui aujourd'hui dessoule, c'est un jour férié en Autriche, en Irlande, puisque voilà, c'est le jour du dessoulement de la Saint-Patrick.
Ouais. C'est un autre monde. Allez, on est parti justement. Et on va se saouler un petit peu. Enfin, je vais vous saouler avec Paris pour le tirage au sort qui a donc eu lieu ce vendredi 15 à midi, qui a vu un tirage, on va dire, plutôt clément, parce que là maintenant, ça fait déjà depuis un petit moment où tu as le tirage à la fois des quarts. Puis les demi, donc on a la voie on a les matchs potentiels jusqu'à la finale du 1er juin à Wembley. Et on va dire que Paris s'en sort relativement bien parce que sur finalement les trois équipes, ils disaient qu'il était préférable de tirer. Ah bah, elles sont toutes dans la partie de tableau de Paris. C'est l'Atlético finalement qui s'en sort le mieux en tirant le Borussia Dortmund, l'équipe que je pense quasiment tout le monde voulait tirer, parce que a priori elle est quand même en dessous des autres. C'est une équipe qui se bat pour terminer quatrième ou à la limite troisième en Bundesliga, qui est sur courant alternatif. On a vu ça gagne 1-0 à la maison difficilement contre le PSV. Donc, quoi qu'il arrive, l'équipe qui se qualifiait sur cette double confrontation, PSV-Borussia, bon, ça, a priori, c'est l'équipe que tu voulais rencontrer. Paris qui récupère Barcelone avec l'aller au Parc des Princes et donc le retour, on va dire un peu malheureusement, à Barcelone. On sait que les Parisiens, les retours à l'extérieur, c'est pas trop leur tasse de thé. Il peut y avoir quelques... voilà, même si là tu joues pas au Camp Nou, et tu joues à Montjuïc. Les hispanophones m'excuseront pour ma prononciation. Donc c'est le stade qui a servi, le stade olympique pour les JO de Barcelone en 92. Donc avec sa piste d'athlétisme, le truc bien crado quand on parle de foot. Votre sentiment sur ce tirage, surtout quand de l'autre côté, j'en ai pas parlé, Arsenal tire le Bayern Munich et Paris s'en sort bien ou allô, allô? Ah, c'est moi qui suis parti.
J'ai l'impression, oui. Tu m'entends?
Oui, moi je t'entends. Ben, c'est Carlos. C'est Carlos qui est parti? Parce que j'entends
Ben moi j'ai eu un problème de. Alors je sais pas, ça a sauté la connexion. Enfin, ça a sauté le live. Je sais pas.
Bah non. Bah, a priori, ça continue. C'est peut-être moi qui ai eu un petit souci.
Je crois que t'as eu un petit.
Mais et Carlos a disparu. Bon, une engendra. Donc, Clément,
oui.
Ton avis sur ce tirage au sort. Paris s'en sort bien.
Bah oui, bah même Barcelone, enfin bon, faut pas. C'est pas le Barcelone. Et puis, c'est. Voilà, on pense tout de suite à la remontada, etc. Mais faut se dire que Paris a évolué depuis, que Barcelone n'a quand même pas montré un. Bah, ils ont été sérieux, mais c'est pas une équipe que tu crains à ce niveau de la compétition. Ça aurait été quand même plus pénible de rencontrer City ou le Real, qui sont toujours des équipes, enfin surtout City, et qui sont des équipes qui a joué à ce niveau de la compétition compliqué, mais Je pense que même si le retour se fait à Barcelone ou, comme tu le dis, au Stade Olympique, moi, je vois pas Paris ne pas se... Surtout que, vu leur avancement, enfin, il n'y a plus rien maintenant, à part peut-être la demi-finale contre Rennes en Coupe de France, mais il n'y a rien qui peut les bloquer au niveau mental en disant oh, « moi non, attention ». Voilà, ils sont en roue libre et puis pour moi, il n'y a pas photo, quoi.
Ouais. Y a pas de... et, puis... ouais. Et pour toi, Carlos ?
Moi, je trouve que Barcelone, alors, il faut se méfier un peu parce que je trouve que Xavi fait quand même une année exceptionnelle avec le peu de moyens qu'il a et l'effectif qu'il a. Il faut se rappeler, on va dire, un peu tous les blessés qu'il a eu. Je trouve qu'il y a énormément de jeunes qui sont en train d'exploser, mais je trouve qu'en même temps, Barcelone est en train de sacrifier cette génération parce qu'elle est très, très franchement, quand je vois ce qu'il est capable de faire, les Yamal, j'ai peur d'écorcher le nom, mais le petit jeune défenseur central de 17 ans, Cutras, Arnaud et moi, comment il s'appelle
Fermine de son doux prénom
Non, c'est le petit jeune qui est en défense centrale sur le dernier match de Barcelone et qui est sélectionné en équipe d'Espagne, équipe nationale. Mais c'est pas qu'il a 17 ans, qui fait un peu comme Zaïre Emery. Et c'est Kubarski. Ah. Et en fait, je trouve qu'en fait, ils sont en train de flamber, de griller complètement ces jeunes. On voit par exemple des Pedri qui sont déjà quand même assez blessés, Xavi pareil. On se rappelle du cas d'Ansu Fati qui était promis à des sommes de plus de 200 millions et qui est parti à Brighton et qui n'arrive pas à revenir musculairement et physiquement. Je trouve que là ils sont en train de consommer toute une génération, tout simplement pour essayer de se maintenir un peu dans le haut du panier. On en fait beaucoup sur Barcelone, mais peut-être que ça va encore passer pour ces quarts de finale, alors je n'espère pas face à Paris, mais je trouve que là les prochaines années vont être très très difficiles pour le FC Barcelone.
C'est-à-dire que pour Barcelone, le gros souci, c'est qu'il y a aussi une gestion qui est assez particulière. Faut pas oublier que le salaire de Messi et de Piqué, ils l'ont toujours dans leur compte, qu'ils l'ont lissé sur plusieurs années, donc ça va être encore très compliqué pour eux. Et ils vont devoir, ils cherchent absolument des gens pour racheter les 49% qui restent de leur du Barça TV là, sur les droits pour essayer de récupérer de l'argent dans tous les sens. C'est vraiment compliqué pour eux. Finalement, ils font une deuxième partie de saison où ça va beaucoup mieux. Ça monte en puissance. Ils sont obligés d'utiliser leur centre de formation, mais au final, ça leur avait souri à l'époque, justement, où ils avaient des difficultés financières pour faire émerger des joueurs qui sont pas devenus trop trop mauvais derrière, hein, les Xavi, Iniesta, Messi.
Ouais, mais c'était les choses progressives. Regarde ce que fait Luis Enrique avec Zaïre Emery. Là, tu le vois moins titulaire ces temps-ci, et je pense que c'est aussi quelque chose où il faut entamer une sorte de rotation, mais parce que Paris peut. Là, le problème, c'est que Barcelone est vraiment tenu par les clochettes au niveau des budgets. Et comme tu le dis très bien, c'est-à-dire qu'ils ont encore des budgets, des salaires à lisser de joueurs qui ne sont plus là. Ils n'ont plus le stade, il est en pleine rénovation au niveau du Camp Nou. C'est aussi un manque à gagner terrible pour eux. Alors, une bête blessée comme ça, il faut toujours s'en méfier. Mais normalement, Paris devrait passer. Et on fait un petit coucou à OJCRM, je ne sais pas comme ça, j'ai coupé... Vous avez fait un petit goût à vous.
Oui, donc j'ai CRM qui est toujours là dans le chat et qui participe. C'est notre quatrième larron.
Exactement.
C'est notre jeune. Tu confirmes bien que c'est Cubarsí
dont
tu parlais. Mais c'est vrai que finalement, Paris et Barcelone sont deux équipes qui se ressemblent assez cette saison, qui ont vraiment des gros points forts, mais aussi des grosses faiblesses. Donc, à voir comment ça va se goupiller. D'ailleurs, on a toujours le spectre de cette remontada où aujourd'hui, à part encore quelques personnes qui pensent que c'est un match normal et qu'il n'y a pas eu des grosses dingueries, que ce soir-là, les hommes en noir ont complètement sombré, aussi bien les arbitres de surface, parce qu'on parle d'high-taking, mais les arbitres de surface étaient lamentables aussi. Donc, mais les gens oublient qu'entre-temps, Paris a rencontré Barcelone, c'était en huitième de finale, qu'on est allé leur mettre 4-1 au Nou Camp. Certes, il n'y avait personne dans le stade, ce qui était plus facile pour les Parisiens, a priori. Et au retour, il y avait eu un partout avec un immense Navas qui avait fait le travail. Et Paris s'était qualifié et avait sorti Barcelone en huitième. Donc, je pense qu'il y a aussi un avantage pour Paris, c'est Luis Enrique contre Barcelone. C'est quand même un gros avantage. C'est quelqu'un qui connaît la maison, qui connaît le football espagnol. C'est des joueurs qu'il a eu sous ses ordres pour l'équipe d'Espagne, qu'il a sélectionné. Donc, aussi bien les jeunes que les plus vieux. Donc, ça, pour moi, comme on aime bien faire en ce moment, c'est mettre des pourcentages, je pense que tu as un 55-45 Paris. C'est-à-dire que si Paris ne fait pas le travail à domicile en gagnant comme contre la Real, quoi, c'est-à-dire 2-0, encore mieux 3-0 ou 3-1, le retour pourrait être un peu plus compliqué. On l'a vu contre Barcelone contre Naples, où Barcelone fait 20 premières minutes, enfin au moins 15 excellentes, ils mettent 2-0. Et derrière, c'est là où je disais que les équipes se ressemblaient, c'est qu'il y a une gestion des temps faibles. Ils sont vraiment très faibles. Et finalement, Naples avait réussi à ressortir la tête de l'eau en mettant ce petit but qui les a fait aussi espérer. Avant, plus tard, d'être pris et de prendre un troisième but qui scellait le sort du match. Donc voilà, c'est une bête blessée, Barcelone, il ne faut pas les prendre par-dessus la jambe. Encore moins si tu passes prendre le vainqueur de Atlético Dortmund par la jambe aussi. Alors, je pense que du côté de Paris, on aimerait plutôt prendre Dortmund, parce qu'en plus, on a assez bien performé contre eux en phase de groupe. D'ailleurs, le fameux groupe de la mort, c'est le seul groupe qui a encore ses deux représentants. Donc, un groupe de la mort qu'on disait, mais non, ce n'est pas un groupe de la mort, c'est des équipes très moyennes qui se neutralisaient. Les deux équipes de ce groupe sont encore là en quart de finale. Parenthèse refermée. Donc, au final, tu préfères quand même prendre Dortmund que l'Atlético, où c'est chiant. C'est chiant à jouer. Tu penses pouvoir faire un bon match et les mecs, ils te laissent à 0-0 chez toi. Et on l'a vu pour l'Inter. L'Inter a trop manqué, n'a pas été assez réaliste. Et ça a maintenu l'Atlético en vie et ça les a tués. Et c'est vrai que c'est aussi, pour finir sur ce tirage, il faut quand même penser qu'entre le Barcelone, Paris, l'Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund, l'une de ces quatre équipes sera en finale de Ligue des Champions. Et quand on regarde l'autre pendant du tableau, il faut dire que entre Arsenal, le Bayern, le Real et City, il n'y aura qu'une seule de ces quatre équipes qui sera en finale de Ligue des Champions. Alors que bon, voilà, c'est la magie du tirage. Au moins, on voit maintenant à quoi sert Nasser Raafi en tant que président de l'ECA. Hein, faut bien que ça serve un petit peu à quelque chose.
Magie.
Pour une fois, les boules étaient assez bien tirées, mais tu vas me dire que
parce qu'on s'était pris assez... en phase.
Voilà. Pour ceux qui nous écoutent en audio, voilà, j'ai fait des guillemets avec mes doigts. Voilà, quand j'ai dit magie. Mais bon, voilà. Non, mais c'est Tant mieux pour Paris, tant mieux. Et puis si ça peut rapporter et des points et une coupe à la France, pourquoi pas?
Et en parlant justement des autres coupes, ça nous permet d'enchaîner avec nos autres Européens, parce qu'on a un représentant par coupe. On va commencer par Marseille, qui s'est fait peur. Quand j'ai vu le match et que le troisième but a été marqué par Villarreal, j'ai fait non, les cons, ils vont pas le faire. Les gars,
même si ton âme, de Parisien disait au fond de son cœur, allez, éliminez-les.
Non, même pas. Franchement, même pas. Quoique ça m'aurait permis de me moquer derrière. Mais franchement, non, parce que moi, c'est ce que j'ai dit à Marseille, je les supporte. Jusqu'en finale. Par contre, en finale, il ne faut pas qu'ils gagnent la coupe. Il ne faut pas déconner non plus. Mais par contre, non, jusqu'en finale, il n'y a pas de problème. Mais non, j'ai fait les coups. Ils vont le faire. Et non, Klose réussit avec un super travail de Bameyang à mettre le petit but qui permet de respirer et de nettoyer le fond du short. Parce que c'était compliqué. En tout cas, ça passe. Au niveau du tirage, je pense qu'au niveau des pays, enfin des clubs représentés, Marseille s'en tire largement bien. Mmh. Parce que le Benfica de cette année, c'est pas oufissime. On l'a bien vu.
S'ils jouent comme ils ont joué dimanche, ça va être compliqué.
Ouais, bah après, s'ils peuvent aussi jouer comme contre le derby du Portugal où t'as Porto qui leur ont collé une manita, alors que Porto est quand même décroché au classement. D'ailleurs, c'est le Sporting hein, qui mène la course en Espagne, donc avec un petit attaquant dont on entendra un petit peu parler, je pense, au prochain mercato d'été, c'est Gyökeres. Alors, il est norvégien ou il est danois, je ne sais plus. Enfin bref. C'est un scandinave. Vraiment, les joueurs de Football Manager le connaissent bien et je pense qu'on en entendra parler un petit peu plus tard. Il a fait un récital encore ce dimanche. Voilà, donc côté Marseille, votre avis, ça, c'est quand même à leur portée, Benfica, ou c'est plus difficile qu'il n'y paraît? Surtout qu'il y a Angel Di Maria du côté bénéficiste qui sera très content d'embêter Marseille.
Clément.
En tout cas, je les aime pas. Enfin, après, c'est vrai que c'est.
Mais c'est pas un avis, ça.
Si. Bon, pour certains journalistes sportifs, si, c'est totalement un avis. Hein. Je les aime pas, donc.
Donc
ils sont nuls. Non, mais par contre, après, c'est vrai que. Ils sont quand même. Je trouve qu'il y a quand même. Je les trouve quand même intéressants. Mais alors, ils sont quand même. Par rapport au dernier tour de qualification, ils sont passés face à Toulouse. C'était déjà pas beau à voir. Il va falloir que. Je pense que ça peut être prenable. Quelque part, Toulouse a failli les sortir. C'était vraiment à rien. Et ce qu'il a manqué à Toulouse, c'était l'expérience, en fait, un peu.
Bah oui, mais c'est ce qui manque au club français, hein. C'est ça le problème.
Je trouve que Marseille, normalement, serait plus à même d'avoir ce petit manque qu'avait Toulouse, tu vois.
Donc, je peux être d'accord avec ça. Je pense, tu as raison, que c'est l'expérience. J'ai des équipes comme les équipes portugaises, c'est pour ça que, comme les équipes espagnoles, peuvent gagner l'Europa League, c'est parce qu'elles ont l'expérience et que tous les ans, comme tu dis, en Portugal, c'est soit Sporting, soit Benfica,
Mais tu vois, ce côté un peu vicieux, mais dans le bon sens du terme, je pense que l'équipe de Marseille est peut-être plus armée à leur...
Oui, mais Marseille est quand même... Ouais, avec Paris, c'est une des équipes les plus expérimentées au niveau européen. Enfin, ou Lyon, mais bon, Lyon, on ne va pas en parler ce soir, mais
non.
Voilà. Je pense qu'au niveau expérience, pas forcément cette équipe-là, mais
au niveau expérience. Mais avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, Je pense que ils sont, tu vois, quelqu'un comme Aubameyang serait quand même un peu, on va dire, essayer d'inculquer.
Oui, mais s'ils sont fatigués, ils voudront pas jouer alors, comme à Rennes, tu vois, ils diront ah ben non, on est fatigués. Donc, ça viendra juste après la trêve internationale. Donc, comme l'a dit Klaus, ils seront moins fatigués.
Et justement, c'est ce que disait OGCRM sur le OGCRM qui est supporter marseillais, qui disait justement, c'est que le match de Benfica se joue entre le déplacement à Lille et la réception de Nice. Autant dire pas facile cette semaine. Bah, c'est sûr. Et sachant que oui, au retour de la trêve, t'as quand même le match de Paris. Le match.
Mais on peut
Paris,
répondre au JCRM comme à Klaus, le football n'est pas facile. Le football professionnel et le football de haut niveau n'est pas facile. C'est des matchs tous les trois jours. C'est quand tu es en équipe de France ou en équipe nationale, tu dois en plus, tu peux pas te reposer pour les trêves. Donc oui, le football, c'est pas facile.
Mais je trouve.
C'est le football.
Par contre, le truc, c'est que il y a quelque chose qui m'a un peu. Alerté entre guillemets sur l'effectif marseillais. Moi, je pensais qu'ils étaient quand même plus, qu'ils avaient plus de possibilités que ça, par exemple sur la défense. Et je m'aperçois en fait que au niveau défenseur central, ils sont encore moins membrés que Paris, parce que là, ils en ont véritablement que trois quand tu regardes. Mm-hmm. T'as Balerdi, Mbemba et Gigot, mais en fait derrière, mm-hmm. quasiment personne.
Non, c'est des jeunes.
Sur le but de Terrier ce dimanche là, t'avais personne, hein. Parce que Terrier, il fait son contrôle, il fait son tir, personne vient lui dire non, on n'est pas d'accord.
Personne ne vient lui porter le ballon. Quoi. Le deuxième défenseur central, c'était le joueur qui est deuxième arrière droit derrière Klaus. Donc en fait. C'est pareil, c'est-à-dire que tu t'aperçois, et excusez-moi encore de taper sur Longoria, qu'il a complètement, pour moi, raté son mercato hivernal, l'autre avec le Kaiser Soze de Wish, là, qui nous a fait tout un pendant sur Klaus. En fait, ils n'ont pas pensé à prendre au moins ne serait-ce qu'un défenseur central. Ils se sont excités sur les latéraux, ils en ont pris deux à gauche, mais en fait, tu t'aperçois que derrière, c'est mort et pleine, quoi.
Et donc, il y a des joueurs qui ne jouent pas à leur place. C'est ça que tu veux dire?
Ah, je n'ai pas dit. C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui seras
faux. Je ne l'ai pas dit.
Non, mais non, parce que
je pourrais te répondre ça, parce qu'à Rennes, des joueurs n'ont pas joué à leur place, comme où et...
Oui, mais à un moment donné, quand tu es Marseille, quand tu joues une Coupe d'Europe, normalement, tu es censé prévoir...
Bah oui.
Non, regarde, par exemple, Paris, Henrique, quelque part, il a intégré dans sa programmatique, je pense qu'il avait étudié le fait que Solers ou Zaïre Emery puissent jouer un peu arrière-droit et que du coup, il avait quelqu'un comme Mukiele qui est peut-être dans la capacité de jouer défenseur central. Là, j'ai l'impression qu'en plus, l'effectif est vraiment mal monté à Marseille et que pour moi, c'est... Là, c'est pas forcément la faute de l'entraîneur, c'est quand même.
Ah, bah non, mais l'entraîneur, attends, c'est le troisième depuis le début de l'année, oui. Pas déconner non plus. Quoi.
Oui, alors, mais même ça n'a pas été pensé, quoi. C'est des trucs qui ne sont pas pensés. Et voilà.
Bah, donc, après,
courage à nos amis marseillais.
Après, ça dépend. Quand ils jouaient à 3, c'était compliqué. Là, ils sont revenus sur une défense à 4. Si tu as Mbemba, Meite, Balerdi, et Gigot, normalement, tu as 4 joueurs pour 2 places, c'est déjà plus...
Mais il n'a pas joué depuis quand? Moi, je l'ai quasiment jamais vu. Moi.
C'est sûr que c'est plus compliqué, mais tu prends à Paris, parce que tu en parlais, Luis Campos, il va te chercher... Beraldo au Brésil. Donc là, Beraldo, il est en train de se faire une saison et demie, hein, parce qu'il a fait une saison entière avec le Brésil. Là, il enchaîne. C'est le joueur qui a le plus joué à Paris depuis le début de saison. Le mec, même si sur les premiers matchs, il est rentré. Je crois qu'hier, il finit pas le match, il est remplacé. Le mec, il enchaîne. Hein, à mon avis, c'était pas prévu. Et c'est sûr que tu as Skriniar qui est blessé, tu as Kimpembe qui va peut-être revenir avant la fin. Skriniar, a priori, rejouerait avant la fin de saison. Tu as Marquinhos qui est blessé au tendon d'Achille. Et derrière, bah, c'est sûr qu'il ne fait pas forcément. Tu as des Danilo qui étaient aussi blessés contre Nice. Donc, ça fait quoi tu as joué avec deux gauchers en défense centrale, ce qui fait, ce qui fait mourir de peur la majorité des entraîneurs du monde. Donc,
mais regarde, par exemple, Bamo Meïté, moi j'entends OJCRM qui nous dit que normalement il est plus défenseur central, sauf qu'il a joué en fait à droite et il a compensé en fait. Ou alors le problème c'est que, mais en fait il manque un arrière droit, enfin tu vois, c'est des effectifs qui sont quand même, je trouve, très mal montés depuis le début de saison, qui n'ont pas été forcément redimensionnés au niveau des transferts hivernaux. Et maintenant, tu fais bon gré mal gré. Et je trouve ça dommage pour Marseille, parce que tu as quand même. Tu peux avoir une possibilité de faire quelque chose d'intéressant en Coupe d'Europe. Et du coup, au bout d'un moment, entre le championnat et la Coupe d'Europe, qu'est-ce que va choisir notre ami entraîneur
vu le niveau de l'Europa League. Moi, si j'avais un conseil, fait Marseille, concentrez-vous sur le championnat. Hein. Parce que là, tu passes Benfica, quand tu vois qui reste côté Europa League.
Et puis, surtout, tu te prends Liverpool, quoi.
Voilà.
Normalement.
Ou Milan. Ouais.
Ou Milan. Liverpool. Attends, il va pas nous faire du caca culotte, le Clément Fantôme, là. Normalement, c'est Liverpool qui passe face à Milan.
Oui, avec le Milan de cette année. Oui,
moi je sais plus.
On aime bien notre ami Mehdi. On aime bien notre ami Mehdi de Buonasera, mais normalement entre Mehdi et Clément Fantôme, c'est Clément qui passe.
Hein. Non, mais, là il joue pas Milan, Liverpool. Il joue.
Normalement, la demi-finale c'est.
Ah oui, la demi-finale. Non, mais je veux dire.
Mais c'est ce que je te disais, moi, c'est que. Non, Marseille, ils sont sur le tableau de Liverpool, normalement.
Ah, pardon, excusez-moi. Non, oui.
Mais c'est pour ça, mais.
Oui, d'accord. Non, excusez-moi, j'étais sur.
C'est pas bien, les Allemands.
Donc, quoi qu'il arrive, ça sera compliqué. Et peut-être aussi un petit peu plus pour nos petits Lillois qui, à contrario de Marseille, après avoir géré le match retour contre Sturm Graz en faisant un partout à la maison, on va dire vraiment qualification sans trembler pour les Lillois, tu hérites du pire tirage possible avec Aston Villa. Même si Aston Villa, en cette fin de saison, ça marque un petit peu le pas, ça reste quand même l'épouvantail de cette Conference League avec la Fiorentina qui est là, qui joue, qui est cinquième ou sixième du classement côté italien, donc qui ne fait pas une mauvaise saison. Mais en tout cas, côté Lillois, pour le coup, s'ils réussissent à passer à Aston Villa, je ne vais pas dire qu'il y a une voie royale pour aller décrocher la conférence, mais en tout cas, franchement, ça serait. On sera. En tout cas, moi, je serai à fond derrière eux. Parce qu'en plus, c'est une équipe que j'aime beaucoup en championnat, qui dégage beaucoup de choses. Donc, ça me ferait extrêmement plaisir que les Dogs aillent assez loin avec un banc d'entraîneurs en la personne de Fonseca. Donc, voilà. Mais en tout cas. C'est faisable, mais faudra faire.
Le seul problème, c'est qu'Aston Villa est entraîné par Unai Emery, quoi. Qui est un petit peu le spécialiste de la
C3, ouais.
De cette compétition, quoi.
Voilà. C'est clair.
Alors non, il avait gagné l'Europa League. Il a jamais gagné la
Conférence. Ouais, mais bon, c'est quand même, c'est un spécialiste de voilà.
Mais c'est un spécialiste.
Oui, c'est pas le spécialiste de la C4, c'est le spécialiste de la
C3. Sauf avec Paris.
D'accord, mais quand bien même, ça reste un. Voilà.
Soyons précis.
Oui, non, c'est vrai. Nos auditeurs.
Nos auditeurs.
Nos auditeuristes.
Demandent de la précision.
Non, parce qu'on a des gens qui nous regardent aussi, Carlos.
Bah oui, aussi.
Et qui regardent ta mauvaise barbe, tout ça, là.
Les téléspectateurs. Ouais.
Il y a des gens qui sont...
mauvaise barbe.
Dis donc. Qu'est-ce que c'est?
Une barbe blanche.
Oui. Et c'est vrai que c'est OGCRM qui nous le dit. Et on aura la joie d'accueillir en France Emiliano Martinez. Donc j'espère que les amis lillois vont
le recevoir y aura des tifos,
comme ils le méritent.
Il y aura des tifos avec des voilà ce qu'on appelle des vulgairement des bites, non, je suppose. Enfin, aura...
oui. le monsieur s'est penché sur la chose.
Je pense qu'il ne faudrait pas rater l'occasion quand même.
Ouais. Allez, on bascule sur la J26 Ligue 1. On a décidé d'un commun accord entre nous-mêmes de pas mal axer sur à la fois, c'était un petit peu le titre du live, avec Paris est-il champion, mais bon, ça j'ai envie de dire qu'on le sait déjà depuis quelques journées, avec Paris qui faisait place. Et malgré ça, derrière, ça n'engrangeait pas les points, ça n'en profitait pas pour se rattraper. Sur les 5 derniers matchs, Brest a réussi à reprendre un point sur Paris. Donc, je ne sais pas s'ils vont réussir à en prendre 13, parce que même s'ils en prennent 12, c'est-à-dire que Paris ne fait que 4 victoires et Brest gagne tous ses matchs, il y a à peu près 23 buts d'écart en goal average. Donc, on va dire qu'il faut plutôt prendre 13 points que 12 pour attraper Paris, ce qui va être assez compliqué. Donc, oui, je pense que... et nos chers médias vont être sans dessus-dessous. Oui, Luis Enrique va continuer à faire des essais en championnat pour préparer les matchs de Coupe de France et de Ligue des Champions. Donc,
tant mieux pour lui, hein.
D'ailleurs, je pense que je vais arrêter de regarder les avant-matchs aussi bien sur Prime et sur Canal concernant Paris, parce que, axer les trois quarts des dires sur Paris, sur Kylian Mbappé et sur le fait que le mec, attention, on va voir la compo, il joue pas, c'est vraiment la surprise. Non, c'est bon. Vous nous gavez, parlez du terrain, les messieurs, même si c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de parler du terrain que des à côté. Enfin bref. Donc, on va vite passer sur la victoire 6-2. Paris qui nous fait une pari, hein, avec bien sûr tu mènes 2-0, et ben tu te fais rejoindre. Hein. C'est une constance sur la saison. Mais derrière, peut-être que les Parisiens étaient un petit peu chafouins de la fin de la première mi-temps où ils se sentent lésés sur la sortie de Donnarumma. Pour moi, ça peut être si c'est faute. Bon, après, il faudrait que ça soit harmonisé sur les terrains. Et par exemple, quand on voit Anthony Lopez avec tout son background, j'ai envie de dire que lui, il aurait dû avoir au moins 15 pénaltys sifflés contre lui. Bon, il en a eu un de temps en temps. Donc, ça peut siffler. Il y a eu d'autres situations de pénalty qui étaient moins flagrantes. Mais en tout cas, Paris a sorti la boîte des frappes aux 18 mètres. Il y a eu un atelier spécial à l'entraînement. Je ne vois pas autrement. Mais si, enfin, ça peut s'expliquer de manière... Tu vois, typiquement, ils auraient pu essayer de s'arrêter là-dessus sur le fait que tactiquement, c'est quelque chose qui doit être demandé par Luis Enrique. Parce que vu que tu es habitué à voir Paris qui jouait un peu à la baballe, à essayer de rentrer avec le ballon dans les 18 mètres pour essayer de se trouver en passe courte, bah, finalement, ça fait reculer les défenses et ça ouvre des possibilités de tir aux 18 mètres. Paris a tenté 3 fois hier, c'est rentré 3 fois. Donc... Enfin, même tenté plus que ça, mais c'est rentré 3 fois. Il y avait eu le but de Lucas Hernandez aussi à Nantes, qui avait aussi débloqué la situation. Ça devient une véritable arme, alors que c'était quelque chose qui était inexistant du côté parisien, les frappes de loin. Donc, en tout cas, si ça peut rentrer dans l'arsenal, c'est aussi bien. Donc, on avait décidé d'axer plutôt sur la descente, enfin la relégation. Et en premier lieu, Nantes, où Kita nous fait une Kita, c'est-à-dire que après avoir rappelé une énième fois Jocelyn Gourvennec, qui va pouvoir retourner tranquillement faire ses commentaires de merde sur Canal+, bah, on rappelle le soldat. Qu'est-ce que d'or ? Antoine Comboiré is back. Ça va faire des pompes et des abdos et du commando militaire, mais en tout cas, ils en auront besoin parce que quand on voit le planning de Nantes au niveau justement de de cette fin de saison, bah ça va être compliqué, hein. Parce que à part Le Havre et Montpellier, bah c'est juste prochaine journée à l'extérieur Nice. Ça reçoit Lyon, donc ça va au Havre. Ça reçoit Rennes, ça va à Montpellier. Ça va à Brest, ça reçoit Lille et ça finit à Monaco. Donc, autant vous dire que pour moi, Nantes, dans le meilleur des cas, ça prend 5 points, allez, 6 points d'ici la fin de championnat. Surtout que c'est toutes ces équipes-là, les Brest, Lille, Monaco... Ça va se battre comme des chiffonniers pour attraper les places, les deuxième, troisième et quatrième places pour la Ligue des Champions, plus après les Coupes d'Europe avec l'Europa en cinquième place et la conférence en sixième. Votre avis, est-ce que Nantes est déjà condamné, même si au final, pour l'instant, ils ne sont, ils sont même pas relégables, ils sont
Si, ils sont barragistes, en fait.
Ils sont 16e.
Ils sont barragistes. Oui, ils sont 16e. Le problème, c'est que j'ai l'impression que Metz est un peu en train de se faire refaire la cerise.
Même Clermont.
Et surtout, au bout d'un moment.
Même Clermont, c'est vrai qu'on n'a pas donné les scores, mais justement, tu me fais bien de le rappeler. Donc, Nantes,
Metz a perdu, quand même.
Voilà, Nantes qui a perdu donc à domicile.
Ah non, c'est trois défaites, donc.
Toulouse qui perd à domicile contre Lyon après un peu un match de folie où ils étaient menés 1-0 grâce à la casette. Toulouse revient, mène 2-1 et puis il y a l'entrée de Cherki qui change tout et qui renverse le match. Dans les autres équipes mal classées, et ben, il y avait le match de la peur, Clermont-Le Havre, et c'est Clermont qui s'en sort de 2-1. Lorient qui réussit dans les arrêts de jeu à égaliser à Monaco et à prendre le match nul, avec bien sûr l'ancien qui revient sur la terre de ses exploits et qui met un but contre son ancienne équipe, hein, Bakayoko. Metz qui perd à Reims et Montpellier qui s'est pris une valise à la maison contre Paris. Et donc justement le petit point classement sur ce classement où on va dire qu'on part de la 11e place. Parce que Lyon, 10e, est devant à 5 points d'avance. Ouais. Donc, de Toulouse, 11e avec 29 points. Et Clermont, dernier, avec 20 points. Donc, tout ce petit monde se tient en 9 points. Et ouais, principalement, ouais. D'ailleurs, de Le Havre, 13e à 27. Tu redescends à Nantes, qui a 25 points. Donc, tout ça, ça se tient dans un mouchoir de poche. Donc voilà, votre sentiment sur nos petits Nantais, ça craint du boudin ?
Je trouve ça consternant. Déjà l'année dernière, non mais c'est vrai en fait, non, c'est quand même un club qui est historique au niveau de la Ligue 1. Non, mais c'est quand même une.
Là, c'est le René qui parle.
C'est quand même un beau stade. C'est quand même un beau stade.
Oh, magnifique.
J'ai pas dit que Nantes est en Bretagne. Mais c'est pas possible. Mais coupe Clément, Arnaud. Mais non, mais en fait, c'est Kita, c'est plus possible. Quand tu t'aperçois, alors en plus, au JCRM, on avait dit, quand on parlait de Coupe d'Europe, il voulait signaler que le FC Nantes s'était qualifié en demi-finale de Youth League année. Tu t'aperçois que chez les moins de 19, tu t'aperçois que tu as des générations en or, que tu fais quand même une formation qui n'est pas si dégueulasse que ça. Et quand tu vois le jeu proposé par l'équipe première et le turnover des entraîneurs qui sont toujours les mêmes et c'est des trucs sans idée, au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. C'est plus. Mais en même temps, enfin, la Ligue 2 va faire du bien à Kita. Au bout d'un moment, faudrait reconstruire tout ça, réassainir les bases, repartir de la formation, refaire un vrai jeu à la nantaise.
Tu sais, le jeu à la nantaise, ça fait 20 ans qu'on l'a pas vu, hein.
Ouais.
Mais je pense que tu peux avoir un potentiel là-dessus.
Ouais, mais je suis pas.
Non, historiquement, tu vois, tu.
Mais je suis pas tout à fait d'accord
Vas-y,
sur. Non, sur le fait de relancer une équipe, on voit avec Bordeaux, hein, relancer une équipe, comme tu dis, historique en Ligue 2, ça peut être très.
Tu vois,
Je sais qu'Auxerre fonctionne très bien en Ligue 2, qui vont sans doute monter cette année, mais voilà, tu vois comment je.
mais ça peut être la déchéance dijonnaise, ça peut être la déchéance
Voilà.
nantaise.
Sochalienne, enfin,
Le vrai
on en
problème,
connaît, hein, Nancéenne, on en connaît des clubs qui. Et même Bordelaise et Stéphanoise.
mais tu vois, le vrai problème de Nantes, c'est que j'ai l'impression que le maintien l'année dernière en Ligue 1 leur a pas fait rendre, ils se sont pas rendu compte du gouffre qu'ils ont évité. Tu
Ouais, mais.
vois, c'est les. Parce qu'il y a des fois, tu peux dire, tu vas jouer le maintien, ça peut te faire remettre en question sur une sorte de gestion de club, tu
Oui,
vois.
mais ça va être la
Le
finale
le.
contre Toulouse. Oui, ben on a quand même joué une finale de Coupe de France l'année d'avant. C'est on a joué, on a gagné. Enfin, oui, il y a 2 ans avant, c'était
Oui, mais il y avait la Coupe
la Coupe de
d'Europe.
France. Oui,
C'était
non,
la
mais ils avaient
Coupe d'Europe
gagné la
qu'ils
Coupe de
avaient fait.
France. Donc ils se disent
Oui.
finalement, bah non, on est quand même une bonne équipe. Ouais, moi je sais.
Mais c'est les choses, c'est les
Mais
cache-misères,
oui.
en fait. Le problème, c'est que tu as l'impression que tout va bien, mais en fait, ça,
Mais les
au
Nantais, je
niveau
pense que les
de la
Nantais, le
base,
supporter
c'est.
nantais est d'accord pour dire que Kita fait n'importe quoi. Mais en même temps, qui va reprendre le club s'il s'en va? C'est François Béguedeau, qui à une époque voulait reprendre le FC Nantes. Enfin, je sais pas, qui va reprendre ce club, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un
De
prêt
toute façon,
à.
quand tu écoutes un petit peu Molina, quand il fait ses vidéos justement sur tous les clubs comme ça, il dit que à part quelques exceptions, quasiment tous les clubs de Ligue 1 sont en monte. Et je pense que Kita, s'il avait pu avoir trouvé un pigeon chinois
Oui.
à qui il refourgue le club pour 100 millions, mais le mec, dans la minute, s'était vendu. Mais je pense que comme à l'époque avec la tête bicéphale stéphanoise
De Saint-Étienne.
où les mecs ils réclamaient des sommes, ils étaient totalement hors sol où ça réclamait des 100 millions pour Saint-Étienne. À un moment, les gars redescendaient juste sur terre, quoi. C'est-à-dire, oui, il y a une base de supporters, etc. Mais en aucun cas, tu peux, ton club vaut 100 millions. Donc, je pense que c'est au niveau des instances, on l'a vu aussi avec les droits télé, les présidents de clubs de Ligue 1, ils sont complètement satellisés, les mecs. C'est-à-dire que ça croît toujours au milliard, alors
Oui,
qu'il
bah ça, on l'a dit.
y a un assainissement des salaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des joueurs en Ligue 1 et beaucoup sont beaucoup trop payés, et je parle pas qu'à Paris, qui sont beaucoup trop payés pour le rendement. Ce sont des joueurs moyens qui sont beaucoup trop payés pour ce qu'ils développent. Donc,
Bah,
et
tu
c'est.
prends la moitié de l'effectif lyonnais, hein, donc déjà.
Voilà. Donc,
Bah, voilà.
aujourd'hui, est-ce qu'un Tolisso, ça vaut 500 000 balles par mois? Je suis pas forcément convaincu. Donc,
Alors qu'un Bourigeaud, ça te coûte que
mais.
300 000, hein, donc attention, hein. Voilà.
Oui, mais après, mais pour en
Ouais, mais il y en a un
revenir
qui est
au
champion du
FC Nantes,
monde.
c'est aussi.
Ah oui, oh, mais bien
Mais
sûr. Même il n'aura pas sa
pour
statue devant le
revenir au
Groupama
FC.
Stadium,
Mais pour revenir au FC Nantes ou à certains clubs qui jouent le maintien, c'est aussi de. Alors, Toulouse, on sait qu'il y a le fait du scouting et un peu de travailler un peu sur les databases et essayer de prendre des joueurs qui coûtent un peu moins cher et de les faire, d'obtenir une sorte de plus-value. Mais Nantes, c'est pareil, tu vas chercher des joueurs. Je vois au JCRM qui dit qu'en gros, sur le papier, le dernier match n'était pas si dégueu que ça. Le problème, c'est que tu n'as aucune
Ben
cohésion d'équipe.
Bah, pourquoi tu vas
que
rechercher
tu perds des joueurs,
Kombouaré?
c'est
C'est
super
pour,
important.
comme dit Arnaud, c'est pour mettre, voilà, c'est pour mettre les mecs au pas et.
C'est commando.
C'est ça.
Mais oui.
Par ton commando.
Oui, oui.
Oui.
Mais le problème, c'est qu'à force de faire du commando, au bout d'un moment.
Et
En
puis,
fait,
si au bout de 5 journées, Kombouaré n'arrive pas, ils vont prendre du Duprat pour les 2 dernières journées. Et puis c'est bon, quoi. Le mec, il va faire un discours, un discours dans le vestiaire, et puis c'est
Il
bon,
va les
quoi.
faire chialer.
Voilà.
Il va les faire
Mais
chialer,
ouais.
puis ça va.
Mais par contre, tu vois,
Ouais.
Toulouse, eux, je les déjà, ils sont en tête finalement de ce petit groupe, puisqu'ils sont 11e, et leur calendrier est quand même plus abordable. En tout cas, tu as plus d'équipes où tu peux aller prendre des points. C'est-à-dire, ils se déplacent à Clermont, ils reçoivent Strasbourg, ils vont à
Et comme
Lorient et ils reçoivent Montpellier. Donc ça fait
donc comme
déjà 4 matchs où tu peux essayer d'avoir des points, bon, sachant ils se prennent aussi Rennes à l'extérieur. Marseille à domicile, ils vont à Paris et ils finissent à Brest. Ils finissent avec Brest à la
ce
maison.
pour
Donc,
ce
c'était.
pour qui
Oui, mais comme quoi
ce pour qui je fais attention,
c'était
moi ce pour qui je fais attention, c'est Le Havre. Hein. Le Havre qui est sur 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Et je suis en train de voir un peu c'est pareil, Le Havre, ils vont se ramasser Marseille, Nice, Paris. Ils vont faire 2 matchs couperet face à Metz et
Bah,
Lyon,
Montpellier.
et ils se
Ils
croient.
font eux aussi, bah, ils rencontrent Strasbourg, mais ils font surtout là Montpellier à domicile, ils font Nantes à domicile, ils font Metz à domicile, c'est-à-dire, et ils font Strasbourg à domicile. Donc finalement, tous les matchs contre les équipes de leur championnat à eux, ils les reçoivent.
Sans passer.
Ils les reçoivent au
Et
Stade Océane. C'est un petit avantage. Et ils ont
ouais.
quelques points d'avance sur les autres.
Mais ça
Donc.
prouve que cette ligue à 18, c'est quand même compliqué pour
Bien
les
sûr.
clubs de queue, quoi, parce que voilà, t'as quand même des clubs qui se tiennent. Tu vois, t'as quand même Clermont qui est un peu décroché parce qu'ils ont une début de saison pourri. Metz aussi, enfin ils ont. Mais finalement, tu te retrouves avec des clubs qui se tirent la bourre. Et qui vont tous se battre pour être barragistes, en fait. Enfin, on a quand même Clermont et Metz qui sont dans la partie relégable. Enfin, je pense, enfin, je sais pas, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois que
Clermont,
c'est tout.
ici, Clermont 20 points.
Clermont, ils ont.
Non, mais
Ouais, Metz.
ça fait depuis,
Oui.
on va dire la 10e journée, ou j'en sais rien. Enfin, c'est quand même un paquet de journées où Clermont est dernier et que Metz est devant, quoi. Et que devant, enfin, au-delà, voilà, t'as des clubs. Bon, ben, t'as Lorient qui ressort un peu la tête de l'eau, mais ça fait que Nantes, voilà. Mais ouais.
Mais le problème, c'est que ça n'avance pas. C'est-à-dire que tu as
Ah
l'impression
ben non,
qu'effectivement,
t'avances
tu
pas
vas
parce que t'as
faire tu vas
18,
arriver
donc
à faire.
de toute façon, t'auras toujours quelqu'un qui te colle au cul, quoi.
Et c'est ça, oui,
Bah oui,
exactement.
parce que tu peux gagner,
Exactement.
mais
Et
comme t'as
comme.
que 18 clubs, bah évidemment que tu gagnes, mais bon, suffit que l'autre marque un point et puis que d'un coup, enfin, c'est.
Il va y avoir quand même des matchs très importants. Et en plus, ils vont tous affronter quand même des gros. Les gros vont jouer comme pas mal de petits. Donc c'est pareil, c'est ceux qui vont réussir un peu à faire un peu la surprise ou tu vois. Non mais je trouve que ça peut être super intéressant, tu vois. On sait en haut, on va dire un peu tout va se déliter, je pense un peu rapidement. Mais je pense que derrière, ça va être vraiment
Ah
un
bah
championnat
ça va
très
jouer la
intéressant.
dernière journée, ça c'est sûr.
Bah c'est bah
Ah,
c'est ce que
je pense
disait.
que la place de barragiste va jouer à la dernière journée. Peut-être les deux autres sont déjà décidés. Je pense que Clermont.
Je sais pas, je sais. Moi, je trouve que Metz a gagné quand même sur ces 3 derniers matchs. Ils avaient gagné. Ils ont quand même gagné des matchs importants. Ils ont été gagnés à Nantes et ils ont gagné
Ouais,
contre
mais
Clermont.
oui, mais.
Alors, effectivement, ils ont perdu à Reims. Ils jouent Monaco. Mais après, ils rejouent Le Havre. Ouais, ils ont que 2 matchs.
Non, moi je vois Metz et Clermont dans la charrette, mais ça va être compliqué. Ouais. Mais
Et
non, oui, c'est pas fait. Hein. De toute façon, c'est rien n'est fait, rien n'est fait.
bah déjà, c'est ce que disait au JCRM, t'as un, alors je ne sais plus dans quel sens c'est, si c'est. Attends, je te dis ça tout de suite. C'est t'as un Lorient-Clermont en dernière journée de championnat.
Ouais, ça va être top aussi.
Mais surtout, c'est que c'est le. Et c'est vrai que le calendrier de Metz, il est peut-être presque aussi pire, c'est pas vraiment français, mais
oui, voilà, oui.
Que celui de Nantes, parce que le calendrier de Metz, c'est ça reçoit Monaco, ça va à Brest, ça reçoit Lens, ça va au Havre, ça reçoit Lille, ça reçoit Rennes, ça va à Strasbourg et ça finit à Paris.
Et tu vois, je trouve aussi, par exemple, que moi, il y a des équipes qui sont un peu engluées dans cette fin de peloton. Mais Montpellier, Le Havre, moi, que je trouvais quand même assez séduisant au début de saison, ils ont quand même vachement régressé. Et petit à petit, tu vois, ils sont complètement, ça s'est complètement délité. Alors, Le Havre qui monte, donc, quelque part, l'objectif premier, c'est le maintien, hein, tu vois, c'est pas, mais je trouvais que Montpellier, qui était quand même plutôt plaisant à voir jouer, moi, Altamari, c'est quand même un joueur que j'aime.
Ouais, mais il est en ce moment, il est sur le banc.
Une excellente Coupe d'Asie. Ouais, mais je pense qu'il a le contre-coup de la Coupe d'Asie, quoi. C'est-à-dire que tu fais pas des compétitions comme ça au mois de janvier, février, où en plus tu vas quasiment taper une finale, sans avoir le contre-coup physique derrière, quoi. C'est-à-dire que il faut aussi se le dire aussi, quoi. Donc, et là, c'est vrai que bon, ils arrivent un peu, c'est poussif, Montpellier, mais c'est,
En tout cas,
ouais, Montpellier, c'est Savanier, quoi. Savanier va, ouais. Tout va, quoi. Enfin, au bout d'un moment, Montpellier, ça va, quoi.
Ouais, mais on va dire qu'ils n'ont pas le calendrier le plus compliqué, parce que Clermont se réveille un peu trop tard.
Oui. Et puis en plus, Montpellier,
mais moi, c'est que c'est les calendriers de Metz et de Nantes. Où les mecs ils prennent 6 points maximum, quoi.
De toute façon, Rennes va aller à Nantes pour leur mettre une manita, quoi. C'est clair. Enfin, là, je pense que les joueurs et tout vont être motivés. En plus, si on peut les mettre dans la charrette,
et Lorient,
c'est ça. Va être...
Et c'est vrai que Lorient se tape toute la première moitié du tableau là, sur les derniers matchs. Hein. À part Montpellier et Clermont, ils se tapent Brest, Paris, Nice, Toulouse, Lens et Marseille.
Et tu vois, ils ont quand même Toulouse. Donc finalement, tu vois, ils échappent un petit peu, mais ça fait toute une petite partie.
Ouais, puis Lorient, ils ont quand même.
C'est vrai que l'avantage de ces équipes-là, c'est qu'elles sont au nombre, on va dire, de 4. Le Havre, pour moi, a quand même une fin de championnat qui est plus accessible, où ça peut aller chercher peut-être un peu plus de points. Ça a quand même quelques points d'avance, pas beaucoup, mais avoir 2 points d'avance avant ce sprint final, c'est beaucoup en cette fin de championnat, avoir 2 points d'avance. Et pour le coup, Clermont qui en a 5 de retard, même 6 sur la 15e place, eux ils sont dedans. Enfin, à moins d'un exploit, Clermont ça va repartir. Et donc après, entre Lorient, Nantes et Metz, voire Montpellier. Mais Montpellier, il y a plus de qualité, c'est plus irrégulier, mais ça peut t'embêter n'importe quelle équipe. Oui, c'est capable d'aller gagner 2-1 à Nice. Bon, après, ils se sont pris à Paris, mais ça sera peut-être pas les premiers ni les derniers en cette fin de championnat à se prendre une volée par un Paris, peut-être qui monte en puissance, sauf sur la fin de saison, où on sait que les petites équipes demandent à affronter Paris sur la fin de saison, parce que c'est une équipe qui, souvent, ces dernières années, avait fini son championnat, enfin, tout du moins, avait fini sa saison au mois de février-mars, et donc n'avait pas de printemps européen, et donc finalement, n'avait plus rien à jouer, ce qui n'est pas le cas de cette saison. Et peut-être qu'un Luis Enrique laissera pas filer les matchs pour avoir ces espèces de purgeas qu'on a eues l'année dernière, où tu vois finalement Lens finir à 1 point de Paris parce que tu as perdu chez toi contre Clermont, parce que tu t'es fait humilier chez toi par Lorient, où le fait, on a l'impression que c'était un Brésilien, donc c'est, même si c'est un excellent joueur au demeurant, mais voilà, on ne sait pas non plus les dingueries que peuvent faire les en haut du classement, tu vois, si Lyon n'a plus rien à jouer aussi, s'ils ont gagné la Coupe de France, les mecs, ils vont jouer en claquettes chaussettes. Hein. Et donc, tu peux venir faire des résultats contre Lyon, ou contre Paris, ou S'il y a une équipe qui peut plus accrocher la Coupe d'Europe en fin de saison, bah les mecs, ils vont jouer tranquille. Et si toi, tu dois jouer ta survie, généralement, tu peux peut-être t'en sortir, au moins aller grappiller des points chez les gros, quoi. Bon, on est à une heure d'émission. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on pourra, on pourra faire, en plus de l'équipe de France, lundi prochain, parler plutôt du haut du classement et peut-être revenir sur... sur les matchs de, justement, de tous ces gros qui se croquent entre eux et que finalement, bah, Rennes est, sort vainqueur de ce week-end parce qu'il recolle au peloton des Européens, alors, parce que tous les autres n'ont pas réussi à avancer, alors que le Red Star mène 2-0 dans nos amis du Beaujolais, donc à Villefranche. Donc, on pourra revenir là-dessus, parce que on le rappelle, hein, Brest est tenu en échec contre Lille, que Monaco était aussi tenu en échec. Nice, finalement, s'est relancé à Lens en faisant, on va dire, un braquage à la niçoise, hein, 3-0.
Oui, non, c'est ça qui est hallucinant, c'est d'un week-end à l'autre, tu vois, voilà.
Lens qui se classe sur classe Lyon, qui 3-0 et qui se fait surclasser derrière par Nice à la maison. Enfin, ouais,
comme Rennes qui voilà, un peu décevant ces dernières semaines, donc notamment à Paris, hein, l'égalisation parisienne dernière minute, les arrêts de jeu, le match perdu contre Lorient. La remontada lilloise, etc. Et là, de gagner contre Marseille. Enfin, voilà, tu le dis pour Nice, pour Monaco, pour Lille, pour bon, à part Paris qui a bon son petit paquet de points d'avance. Ben les autres, ça, d'un week-end à l'autre, voilà, on a c'est les montagnes russes. Donc,
en tout cas, les sites de Paris remercient amplement la Ligue 1 parce que pour moi. C'est impronosticable.
Ah bah oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah,
quand on oui. Winamax, Parion Sport et autres, à mon avis, se frottent les mains sur la Ligue 1. Allez, on passe à notre rubrique préférée, les chipots et les merguez. Qu'est-ce que vous avez sur le feu, messieurs? Qui veut commencer?
Non, moi je vais commencer si Carlos me laisse la parole. Non, moi c'est ma chipo. Alors j'ai de la merguez, en veux-tu en voilà, mais j'ai surtout une chipo. Bah c'est Benjamin Bourigeaud, ma chipo, parce que voilà, parce qu'il a mené l'équipe ce week-end, que ça a été qu'il a été il y a eu son comment dire un tifo, enfin un tifo, le cop qui lui a fait un portrait, etc. Enfin, que, voilà, donc qu'il a comment dire congratulé, etc. Enfin bon, donc puisque moi c'est ben voilà c'est un joueur emblématique et puis que ben, ça devient petit à petit à notre humble niveau que nous sommes nous les Rennais, ça devient une légende. Donc voilà, moi j'adore ce joueur, j'adore le personnage, j'adore le gars qui est un vrai footballeur, quoi, parce que quand on lui pose des questions, bah, il répond comme un footballeur, c'est-à-dire, bah, il répond, bah, moi, c'est sur le terrain que je montre ce que je sais faire, etc. Enfin, voilà, c'est un gars, comme on dit.
L'important, c'est les trois points.
Non, c'est pas ça, mais non, lui, il prend du plaisir sur le terrain, on le sent, il a envie de le faire partager, et voilà, donc, moi, ça me plaît, et puis, bah, qu'il reste le plus longtemps possible à Rennes, et puis que, voilà. Qui nous fasse gagner, je ne sais pas, une nouvelle Coupe de France comme il y a 5 ans. Et puis voilà, et puis la boucle sera bouclée, Benjamin. Voilà. C'est ça ma chipo. Ma merguez ira à ces putains de mancuniens. Mais bon, voilà.
la merguez double lame.
Voilà, c'est ça.
Et toi, mon Carlos?
Alors, ma belle merguez, je ne sais pas si vous avez vu les images de très bon sport Fenerbahçe.
Ah oui, quel ah oui. Match, avec Batshuayi qui fait du taekwondo. Ouais, c'est, mais non, mais c'est lamentable, ça, franchement.
Non, mais au bout d'un moment, le football
Ah
turc,
non,
ça
mais ça
commence à
devient, c'est
devenir
du grand n'importe quoi, quoi. Comment les mecs, ils rentrent avec
un
des
peu.
couteaux sur le terrain, quoi. Faut arrêter, quoi.
Attendez la fin de saison, parce que ça commençait déjà à chauffer à Nantes. Attendez la fin de saison en France, parce que ça. C'est-à-dire, Nice qui enchaîne les mauvais matchs et t'as les supporters niçois qui essayent d'aller se battre avec leurs joueurs. Attendez la fin de saison, parce que nos supporters français ont du talent. Hein, donc,
Non, mais, et donc pour vous dire que quand il n'y a pas de foot, il y a d'autres choses quand même dans la vie. Allez sur l'application d'Arte.tv et regardez l'excellent documentaire qui est sur la vie de Freddie Mercury. Au moins, ça c'est du goat. Hein. 1 heure et demie, ça fait du bien. Et en plus, on entend de la bonne musique. Voilà. Parce que
Oui.
du Queen, il n'y a rien
Ok.
de mieux pour se
Je
changer les idées.
ne ferai pas plus de commentaires.
Aussi,
Non,
c'est
c'est bien,
vrai.
oui, t'as raison.
Je vais comme d'habitude, vu qu'il est aussi un membre de ce live à part entière, c'est la belle chipo d'OJCRM pour Almeria qui gagne après 28 matchs sans victoire. Et son énorme merguez, c'est les chants United à Serbie qui dit un mot interdit et le geste raciste qu'a reçu Fekir. On en a marre de voir ça. Ouais, bah après, c'est. En Espagne, on va dire que là, en ce moment, c'est YOLO. Hein. C'est au niveau, c'est-à-dire que t'as notre ami
Ah, mais au bout d'un.
Vinicius, qui en prend pour son grade à tous les matchs. Bon. Après, quand t'as tes basses sur certaines déclarations. Tu te dis qu'à mon avis, le mec, il en pense pas moins. Donc bon,
Ouais.
c'est
Tant que tu
Espagne.
n'auras pas les suppressions de points, enfin les
Ça,
problèmes de points
c'est
qui.
toujours tendu parce que tu t'es pas à l'abri qu'il y ait des
À
intellectuels
Serbie,
qui viennent.
c'est directement le joueur. Hein. Tu dis le mot constaté,
Alors,
tu fais perdre des points à ton équipe. Hein. Au bout d'un moment,
en
voilà.
Bundesliga autrichienne, le Rapid a déjà pris 2 points de suspension pour la saison prochaine, enfin 2 points de moins pour la saison prochaine, à cause des chants homophobes que les joueurs ont chantés,
Par rapport au derby.
voilà, et des joueurs qui ont été suspendus parce que là on a, bah, j'étais au match vendredi. Alors c'était très sympa dans les tribunes, ça criait Scheiß Bundesliga, ça veut dire bah, merde à la Bundesliga quoi. Et c'était rigolo. Par contre au niveau football, c'était compliqué. Hein. Voilà. Donc c'est sympa les tribunes autrichiennes quand vous êtes dans le COP, mais sinon au niveau football c'est pas top top quoi.
C'est
Voilà.
comme dirait Thomas, c'est pas top, top, top. Bon, moi, au niveau des chipots, ouais, ça peut être une chipot un peu rigolote. En ce moment, il dit quand même pas que des trucs intelligents. C'est notre ami Daniel Riolo
Ah, mais depuis quand c'est notre ami? Attention, là, fais attention.
c'est l'une de sur des, ces dernières sorties où le mec. Dit de Barcola. Bon, en plus, bon, de toute façon, il l'a dans le pif depuis le début parce qu'il l'appelle Bambi parce que pour lui, c'est trop tendre pour le PSG. Mais en plus, tu vois, il s'attaque à sa coupe de cheveux en lui disant
Bah oui.
qu'avec des dreadlocks comme ça, tu peux pas être un excellent joueur de foot si tu as des dreadlocks. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que vu que nos réseaux sociaux ont du talent, tu as un mec qui a fait un petit copier-coller de joueurs qui étaient pas trop trop mauvais. Ruud Gullit, Clarence Seedorf, des mecs comme ça qui ont joué avec des dreadlocks et encore on en oublie parce
Qui
que
collait des têtes quand même.
c'est voilà, hein, il y a des mecs qui sont
Ouais.
arrivés en équipe de France qui avaient des chevelures, en veux-tu en voilà, hein,
Ah,
bah, Timby Gomis, c'était pas Carlos et moi, hein, donc voilà.
ils peuvent pas arrêter de faire parler à l'autre machin. Là. Au bout d'un moment, il sort connerie sur connerie, mais c'est pas possible.
Parce que là, tu vois, et l'une des dernières, justement, après le match, parce que après le match de Montpellier, même là, ils n'arrivent pas à dire du bien de Luis Enrique, et qui disent quand même que s'il était moins bizarre et qu'il était plus constant, et qu'il arrêtait avec ses compositions moisies, Paris serait deux fois plus performant. Et moi, j'ai répondu sur les réseaux sociaux que si eux, peut-être, disaient un peu moins d'âneries, ils auraient peut-être deux fois plus d'audience. Bon, après, ça, c'est chacun voit midi. Oui. Chacun voit midi à sa porte, mais c'est vrai que c'est... Bon, je ne parlerai même pas de Stéphane Guy. Je jetterai...
Ah, mais il n'existe pas. Alors, selon son ancien patron, qui a été auditionné par l'Assemblée, enfin, par la commission d'enquête, Stéphane Guy n'existe pas.
Non.
Il n'a jamais entendu parler de ce type-là, il ne sait pas qui c'est. Donc, non,
et pour Stéphane le coup, quand il s'est fait virer, c'est peut-être l'un des rares trucs qu'il ait fait bien dans sa carrière, c'est qu'il a pris la défense d'un de ses collègues et qu'il s'est fait virer pour ça.
Oui.
Oui, enfin, oui. Le collègue qui s'est fait réembaucher après par Canal+. Hein.
Voilà.
Oui, on ne dira pas que c'est M. Toen et qu'il a le retour à Canal+, fait qu'il n'a pas de race, mais quand même, ce...
Mais non, mais Bolloré n'était pas au courant de ces licenciements, donc ils n'ont pas existé. Voilà. Donc Stéphane Guy n'existe pas,
ce qui me va assez bien.
Voilà.
Bon, bah, monsieur, footballistique.
Écoutez, on est dans les temps, hein. Voilà. On salue notre ami Christophe, on ne sait pas trop ce qu'il a, mais voilà, on lui souhaite le meilleur quand même.
On salue aussi notre ami OJCRM qui nous a écoutés jusque-là. Et on remercie aussi tous nos amis visionneurs de YouTube, visionneuses de YouTube et podcast, enfin, auditeurs qui nous écoutent jusqu'à la fin. N'oubliez pas le commentaire, le pouce bleu sur YouTube ou alors les 5 étoiles sur les différentes plateformes telles que Podcast Addict, Apple Podcast et toutes les autres aussi qui permettent une petite notation, qui permettent de rehausser notre jolie voix et notre joli podcast.
Donc, au niveau football, c'est les barrages pour obtenir les dernières places.
Ah oui, d'ailleurs, on va savoir qui joue à l'équipe de France.
Voilà, contre qui. Et ben pour les Bleus, c'est le match contre l'Allemagne en amical ce samedi. Qu'on débriefera s'il y a quelque chose à débriefer, mais sinon,
oui,
comme j'ai dit tout à l'heure, on sera sur la partie haute de la Ligue 1. Et après avoir fait la course à ne pas descendre, on fera la course à l'Europe qui va de la deuxième à la finalement neuvième place, même si Lyon n'est pas à l'abri avec un enchaînement de bons résultats à revenir dans cette course. Messieurs, comme d'habitude, ce fut un plaisir.
Pareillement. Partagé.
Nous allons donc nous quitter sur ces belles paroles.
À la semaine prochaine.
Le jingle. À la semaine prochaine.
Tchuss.
Ciao.
Tchuss.
Tchuss, papa.